Sébastien, quelle est la première BD que vous ayez lue?
En remontant plus loin, je dirais peut-être un album des Schtroumpfs.
Les Schtroumpfs de Peyo, ces petits êtres bleus qui sont toujours
Voilà.
heureux. Et toujours...
Avec le méchant Gargamel.
Et son
Toi,
chat,
Azrael.
Azrael. Bon, vous l'avez compris, on va parler de bande dessinée pendant 30 minutes, notamment avec Sébastien Fagot, qui est dessinateur, qui enseigne, je le rappelle, à Lagny, sur Marne et à Noisy-le-Grand. Allez, plus en stock, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre magazine consacré à l'imaginaire en général et à la bande dessinée en particulier. C'est Eric Bonnier au micro et on va rester ensemble pendant une demi-heure pour explorer tous les univers graphiques et les mondes inconnus. Et dans cette aventure, je ne suis pas tout seul, comme d'habitude, je suis entouré des meilleurs spécialistes, des meilleurs journalistes de la région. Avec moi, Alexandra Kubrick, toujours candide de choc, bonjour Alexandra.
Bonjour Eric.
Nous accueillons Cyril Vallant, spécialiste de Chic, spécialiste des jeux vidéo. Bonjour Cyril.
Bonjour Eric.
Et puis nous avons Ghislain Debray, le président de l'association des Bulles dans la Marne, association latinatienne qui regroupe des fondus de bande dessinée, c'est
Des
bien ça?
fous furieux de la BD, on peut le dire. Oui. Bonjour Eric.
D'accord, et vous allez nous présenter des chroniques tout à l'heure. Alors, Alexandra, quel est un peu le plan de vol aujourd'hui? Quel est le sommaire?
Alors, on commence par les brèves de la semaine, l'actualité de la BD. On retrouve pour la dernière fois notre invité Sébastien Fagot, professeur de dessin, qui nous accompagne depuis quelques semaines.
On va s'ennuyer la semaine prochaine si c'est la dernière fois.
Oui, on va s'ennuyer, oui. Une petite présentation d'album avec les coups de cœur de l'association Des Bulles dans la Marne, et puis une incursion dans l'univers du jeu vidéo.
Le programme est très chargé. Allez, c'est parti pour l'aventure. Vous êtes toujours sur 96.6 sur Valais FM avec votre émission Bulle en Stock. Alexandra, racontez-nous un peu ce qui se passe dans le monde mystérieux de la bande dessinée.
Alors Eric, si vous aussi vous faites de la BD et que vous êtes un jeune talent, le site BDFil se fera un plaisir de vous aider puisqu'il est ouvert à ceux qui veulent présenter leurs travaux en BD et qui n'ont pas le temps ou les moyens de le faire eux-mêmes. Très intéressant donc. C'est le site donc bdfil.free.fr/bdfil.html.
C'est un peu compliqué, mais on retrouvera tous ces sites sur le site justement des Bulles dans la Marne, ainsi que toutes les émissions. Juste une petite question pour Sébastien quand même. Vous avez recours à ce type de site, Sébastien? Vous connaissez, non?
Je connais beaucoup de sites qui sont concernant la BD sur Internet. Celui-ci me dit rien. Moi personnellement, mes travaux, je les travaille moi-même, je les présente moi-même, donc j'en ai pas eu l'utilité jusqu'alors. Ça peut être intéressant d'aller y jeter un coup d'œil.
Enfin, se dit, vous êtes quand même aidé parce que votre compagne est spécialiste de site internet.
Oui, sinon, oui, forcément, j'ai un site qui fonctionne bien où je peux présenter sans problème mes œuvres, donc ça va de ce côté-là.
D'accord, on continue, Alexandra.
Alors, à découvrir également sur Internet, et ils sont nombreux, les forums sur la BD. Vous pouvez retrouver un forum historique et un forum par catégorie sur le www.bande-dessinée.org.
Ghislain, des forums, en tant que président d'association, vous allez y faire un tour de temps en temps?
Non,
Vous
je
cherchez des infos, vous les utilisez?
Non, non, très peu, à vrai dire, très peu. La plus grosse partie de mon activité, c'est surtout la rencontre directe avec les auteurs lors des festivals.
Ah oui, direct.
Oui, direct. Ouais. Je préfère. J'aime bien voir les gens de visu et puis pouvoir converser avec eux et avoir un contact. Je trouve que c'est quand même plus chaleureux.
Alors, comment
je suis pas très branché ordinateur.
Mais, comment ça se passe les festivals justement? Il y a des festivals donc de bande dessinée. Qu'est-ce qui se passe? Et on vend de la BD, on discute BD.
On vend la BD, on discute BD, on fait beaucoup de dédicaces. Hein, c'est comme l'activité principale hein, dans un salon BD, un festival BD. En général, les auteurs sont invités donc par les organisateurs. Ceux-ci sont chargés de faire de la dédicace. Hein. Donc les gens font des queues interminables, présentent leur album pour obtenir ce petit dessin tant attendu et ô combien chéri. Et à vrai dire, moi en tant que président de l'association, mon rôle est plus de lier des contacts avec les auteurs de façon à pouvoir étoffer non seulement mon carnet d'adresse, mais surtout pouvoir organiser par la suite des activités liées à la BD avec ces gens-là.
Et ça, les chasseurs de dédicaces, on en parlera un peu plus complètement lors d'une émission, mais dites-nous, quand vous dites des queues interminables, je sais pas, vous restez combien de temps pour avoir le dessin d'un auteur?
Allez, je prends l'exemple de Marigny.
Oui.
ce bon vieux Marigny, eh bien, il m'est arrivé personnellement de faire la queue près de 5 heures pour avoir une dédicace de Marigny.
Et est-ce que le jeu en valait la chandelle? Votre dédicace était belle?
C'était du Marigny. Donc ça ne peut être que beau. Et effectivement, le jeu en vaut la chandelle. Oui, oh. C'est de la très belle dédicace.
Ça veut tout dire.
To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out.
Eh oui, c'était Batman. J'avais oublié de fermer le disque, vous vous rendez compte? Ah là là. Bon, nous étions avec Batman et on se retrouve avec Sébastien. Quel rapport entre Batman et Sébastien?
Les grandes oreilles.
Les grandes oreilles et la cape, c'est oui. Ça. Donc Sébastien, avec nous pour la troisième semaine consécutive. Je rappelle que vous êtes dessinateur, que vous donnez des cours de bande dessinée. Et vous êtes revenu pour nous parler, un peu de vous, de votre vie, de vos œuvres. Alors la bande dessinée, vous êtes tombé dedans comment? C'est un peu comme Obélix dans la potion magique.
Oui, c'est vrai que petit, je lisais beaucoup de bande dessinée. Enfin, je dirais que comme beaucoup, j'ai appris à lire avec la bande dessinée, parce que automatiquement les images, on les comprend et il y a des textes. Et puis au fur et à mesure qu'on apprend à lire, et on va de plus en plus décoder les textes et associer le tout naturellement. Assez rapidement.
Vous iriez jusqu'à dire que la bande dessinée est un des meilleurs supports pédagogiques pour l'apprentissage de la lecture?
Personnellement, je le pense sincèrement. En tout cas, je l'ai moi-même pratiqué. Je connais quand même pas mal de monde qui disent la même chose. Donc, les faits sont parlants.
Qu'est-ce que vous conseilleriez aux enfants pour commencer?
Ah, je suis pas un spécialiste de la BD pour enfants. Moi, il y a les éternels classiques comme Tintin, Astérix, les Schtroumpfs. Après, c'est vrai que récemment, j'ai découvert Petit Vampire, que je trouve très bien fait. À la fois, c'est marrant et en même temps, il y a du fond, c'est pas idiot.
Quoi. Alors, vous avez essayé de nous en parler la semaine dernière. Ça n'a pas pu trop se faire pour les raisons de timing. Allez-y, Petit Vampire, c'est quoi? C'est dit chez qui? C'est décidé par qui? Qu'est-ce que ça raconte? Il me semble que c'est Delcourt. Hein.
Oui, ça doit être Delcourt. Alors, c'est fait par Johan Sfar, je pense que ça se prononce comme ça. Alors, c'est l'histoire d'un petit vampire. Dans le premier tome, c'est un petit vampire qui vit avec sa maman vampire et qui vit avec le capitaine des morts. Et puis autour d'eux, il y a des monstres.
C'est un franglais.
Oui, c'est très gay. Mais justement, alors c'est un univers qui peut paraître très glauque, mais c'est tellement tourné, c'est tellement en même temps sympathique. Et les monstres sont en fait des gros gamins, quoi. Ils sont toujours en train de se disputer. Il y a Marguerite qui veut des gâteaux au caca. C'est l'univers de l'enfance avec aussi le côté un peu pipi caca. Mais et derrière ça, les histoires sont comme les contes, quoi. Il y a toujours un fond qui est enrichissant. Il y a des allusions à des histoires, des classiques comme le Hollandais volant. Enfin, il y a des comme ça, des c'est imprégné de plein d'histoires connues, de mythes traditionnels, et ça donne vraiment des bons récits.
D'accord.
Qui sont d'un côté très marrants pour les enfants, et un autre niveau de lecture, intelligent, mais qui n'est pas du tout rébarbatif.
Mais c'est quand même des enfants à partir de, je sais pas moi, 7-8 ans.
Ouais, je dirais plus jeune. Parce que
plus jeune.
Oui, parce que justement, je connais des enfants plus jeunes qui le regardent, qui regardent le dessin animé et qui aiment beaucoup, qui ont 5 ans, donc 5-6 ans. Donc, bon, après, 5 ans, ils n'iront pas à la BD, mais justement, peut-être qu'ils y viendront au fur et à mesure.
Sinon, BD pour enfants, moi, je pensais à Yakari, par exemple, de Derib.
Oui, c'est vrai, oui.
L'histoire d'un petit Indien avec des histoires qui sont quand même assez, assez écolo, fin de compte.
Oui.
Je crois que Derib a une grande sensibilité.
Il y a longtemps, enfin je connais
un peu écologiste animé,
qui passait il y a longtemps.
Mais alors revenons quand même à vous. Donc, comment vivre aujourd'hui du métier de dessinateur?
Il y a autant de façons de vivre du dessin qu'il y a de dessinateur. Je dirais, il y a le dessinateur qui vit purement de la vente de son œuvre, qui fait ça peut être le portraitiste comme on l'envoie à la place du Tertre à Montmartre, qui la vend directement. Vous voulez un portrait, c'est 30 euros, et voilà quoi, il vit au nombre de dessins faits. Le dessinateur qui travaille surtout pour des supports publicitaires, oh, il faut une pin-up, hop, il dessine une pin-up, et soit en général c'est assez bien payé. Le dessinateur qui illustre un livre, une commande d'éditeur, il illustre un livre. Bon, le dessinateur de BD, là vraiment c'est un métier qui général à plein temps, c'est vraiment très varié. Parce que après, il y a même les dessinateurs qui, les dessinateurs peintres, je dirais, qui vendent leurs œuvres, ils font une œuvre, ils la vendent.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour percer? Qu'est-ce qu'il faut pour devenir un Marini, par exemple, puisqu'on en parlait la semaine dernière avec le Scorpion. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir célèbre?
Pour devenir célèbre, il faut beaucoup bosser.
Oui.
Ça, c'est la chose qu'on peut contrôler, c'est beaucoup travailler.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut un coup de chance, ou alors il y a des modes qui peuvent être anticipés.
Il y a une partie qui est contrôlable, on dit le travail, de voir un peu ce qui marche et d'essayer d'être dedans. Et après, il y a une part qui n'est pas contrôlable. Je ne suis pas sûr, on parle beaucoup du phénomène Titeuf, je ne suis pas du tout sûr que l'auteur savait ce qu'il attendait. Après, bon, qu'il ait joué plus ou moins en observant les gamins d'aujourd'hui, en se disant ils ont cette façon de parler, ils ont cette façon de s'habiller, je vais m'en servir. Oui, mais que ça puisse garantir qu'il allait vendre ensuite des millions d'albums, ça c'est très dur à prévoir, je pense pas.
Alors, est-ce qu'autour de la table, il y a des questions pour Sébastien? Dites-moi.
Oui, moi j'aurais envie de savoir comment vous êtes tombé dedans.
La bande dessinée, j'en ai beaucoup lu étant enfant. À l'époque, il n'y avait pas les mangas, donc c'était les comics. À l'époque, il y avait Speedy, Strange, tous les gens de ma génération connaissent. Et les BD franco-belges qu'on trouvait facilement en bibliothèque et en librairie. Donc j'ai les Tintins, les Astérix, les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe, et d'un côté les X-Men.
Vous étiez un grand lecteur. Et comment vous voyez votre avenir en tant que dessinateur? Parce que bon, vous avez un site, d'ailleurs vous pouvez peut-être en rappeler l'adresse.
Alors c'est le monde de sef.free.fr. Sinon, on tape Sef dessinateur sur n'importe quel moteur de recherche et on tombera sur mon site.
Et vous avez déjà eu des touches pour des albums? Ça se passe comment? Et comment voyez-vous votre avenir? Est-ce que vous êtes dit, jusqu'à tel âge, j'essaierai de percer, puis après, tant pis, je ferai autre chose?
Non, il faut avoir, je pense qu'il faut avoir un projet ou des projets auxquels on croit, les travailler à fond et les proposer. Et au bout d'un moment, c'est pas fait pour nous, ça sera accepté. Alors après qu'on fasse vraiment une carrière, ça c'est... Mais je dis toujours, moi je crois une chose, c'est le travail. Après, il faut voir aussi, est-ce qu'on va toucher notre public, est-ce qu'on va pas le toucher, est-ce que l'éditeur va séparer sur nous ou pas, c'est très très dur à prévoir.
Sébastien, c'est quoi le projet qui vous tient à cœur à l'heure actuelle?
Je travaille depuis quelques temps sur un projet qui sera sûrement abouti là dans les maximum 3-4 mois qui viennent, qui a un projet de science-fiction, mais pas space opéra, c'est sur le futur de l'Europe après une guerre mondiale. Et là, bon, on n'est pas dans une situation instable où les pouvoirs commerciaux, religieux et politiques s'opposent avec des forces en présence. Il y a un peu à côté, les trois mousquetaires avec les gardes du roi contre les gardes du cardinal. Donc, c'est aussi partie des références classiques, je dirais. Dans un univers un peu Blade Runner, mais pas dans le côté glauque aussi noir, quoi. Disons, pour le côté grande cité.
C'est pas gothique.
Non, celui-ci n'est pas gothique. J'en ai un autre que oui. J'avais fait à une époque qui était plus gothique, mais pour l'instant, il est dans les tiroirs.
Voilà, ça, c'est quand je suis un peu énervé. Je pousse le cri de guerre. Bon, Sébastien, merci de nous avoir accompagnés pendant ces trois semaines. Je rappelle que vous donnez donc des cours. Comment fait-on pour prendre des cours avec vous?
Donc, pour les cours qui sont situés à Noisy-le-Grand, donc les gens qui sont dans le secteur Noisy-le-Grand doivent contacter la Maison pour tous des Richardais. Ils peuvent trouver facilement les renseignements sur le site internet de la ville.
Oui, www.noisy-le-grand.fr en un seul mot.
Et en ce qui concerne donc l'atelier BD sur l'Agny, il faut contacter l'association des Bulles dans la Marne.
Alors ça tombe bien, vous avez le président juste à côté de vous, Ghislain. Ghislain, l'association, pour la contacter.
Je demande, mais je trouve qu'Alexandra a une voix sensuelle et je préfère l'écouter.
Bon, Alexandra, quel est le site internet
alors,
de l'association?
bbdlm.free.fr.
D'accord, c'est direct et ça fonctionne bien. Bon, bah, Ghislain, tant qu'on est avec vous, on va pas vous lâcher comme ça.
Merci, sympa.
Voilà, parce que vous êtes venu nous présenter quelques albums, comme d'habitude. Mais avant de vous donner complètement la parole, je vous propose quelques notes de musique, parce que je sais que vous êtes en train de retomber en enfance, notamment avec votre fils. Alors, pour vous inspirer un peu, souvenez-vous.
Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur.
Vous êtes toujours sur 96.6 dans l'émission Ambulance Talk et vous rêvez votre vie en couleur. C'est le moment des coups de cœur de l'association des Bulles dans la Marne. Alors, Ghislain, faites honneur à cette transition d'enfer. Parlez-nous de Destin. De Destin, le dernier album de la série Peter Pan de Loisel aux éditions Vent d'Ouest.
Oui, tout à fait. Alors, je vais essayer d'être un peu plus pro que la semaine dernière. Donc, avec ce tome 6, Régis Loisel clôt le cycle de la jeunesse de Peter Pan. Il finit la série où les aventures de Peter Pan commencent, que ce soit dans le livre de Sir Matthew Jamesbury ou le film de Walt Disney. Tous les personnages sont en place, Peter Pan, les enfants perdus, la fée Clochette, le capitaine Crochet,
tout
et les
indiens. Tout ce qu'on aime bien.
Voilà, oui, tout pour que l'aventure continue. Dommage que ne soit pas dessiné par Loisel, la suite. Destin est l'album le plus sombre de la série, tant au niveau du scénario que l'atmosphère et des couleurs, aussi bien sur l'île mystérieuse que dans le fog londonien du 19e siècle. Les enfants menés par Peter Pan se placent à tour de rôle une photo d'une maman imaginaire. Seuls Picou et Rose ne rentrent pas dans le jeu. Le jour où Picou gagne le tirage au sort, l'histoire bascule dans le drame par un tour de la fée Clochette plus jalouse que jamais. La fin de cette série ne clôt pas toutes les interrogations soulevées par Régis Loisel. Peter Pan est-il vraiment le fils du capitaine Crochet? Est-il Jack l'éventreur? À chacun de se faire son opinion. Après ce dernier tome de Peter Pan, Régis Loisel souhaite faire un break avec la BD pour se consacrer à la peinture et au cinéma, en espérant qu'il ne soit pas trop long.
Oui, ben alors disons, Peter Pan, quand même, c'est... Enfin, j'en étais resté à Disney, c'est pas tout à fait ça, c'est très sombre apparemment.
Oui, non, c'est pas du tout l'imaginaire Walt Disney, hein. C'est vraiment un autre Peter Pan. On n'a pas, il y a vraiment aucun élément de comparaison, hormis les personnages cités.
D'un autre côté, c'est pas mal, puisque comme c'est la jeunesse, après on peut toujours se repasser le film pour se remonter le moral.
Tout à fait.
Alors, on poursuit avec notre second coup de cœur, et on reste un peu dans l'univers des pirates, hein. C'est plus le Capitaine Crochet, c'est autre chose. C'est les Corsaires d'Albiciade, c'est le tome 1 qui est intitulé Élite Secrète, sur un scénario de Denis-Pierre Philippi, et surtout des dessins d'Éric Liberge, et c'est paru aux éditions Dupuis.
Tout à fait, oui, sorti en novembre dernier. Cette toute nouvelle série de Philippi Liberge nous transporte à Londres en 1825, où nous découvrons Peter, cambrioleur de son état, et Mike, étudiant, qui se font kidnapper par de mystérieux individus masqués. Ils se retrouvent dans un lieu étrange, en compagnie d'autres personnages ayant subi le même sort. Confrontés à divers tests et énigmes, un groupe de 5 jeunes se forme. Ils se verront confier plusieurs missions ultra secrètes, mais pour qui et dans quel but ? Un découpage subtil faisant vivre l'histoire par l'intermédiaire de petites vignettes détaillées se regroupant autour de pleines pages. Des couleurs sombres situant parfaitement cette ambiance pesante à lire, franchement, si vous avez aimé les 20 milieux sous les mers de ce bon vieux Jules Verne.
Eh bien, on suivra votre conseil, Gisela, merci beaucoup. Alors, place à présent à un univers parallèle, celui des jeux vidéo, avec Cyril, qu'on retrouve juste après ça. Alors Cyril, je vous ai demandé de venir parce que l'univers des jeux vidéo n'est pas tellement éloigné de l'univers de la bande dessinée.
Je dirais que surtout en ce moment, en fait, le jeu vidéo et la BD sont à une bulle d'écart, enfin, si j'ose utiliser cette image.
Ah mais vous pouvez oser.
Je voulais vous parler donc de deux titres, dont un qui marche très très fort et l'autre un peu moins. Donc le premier c'est 13 en fait, qui est adapté de la BD culte. Éponyme de Vance et Van Damme.
Je rappelle que c'est aux éditions d'Argo et qu'ils en sont au numéro 18, non ? Quelque chose comme ça.
Bien, ouais.
Donc on a largement dépassé les 13. Ouais. C'est une superbe BD d'espionnage, effectivement.
Tout à fait. Donc on fera le rapport avec les livres de Robert Ludlum, la trilogie La mort dans la peau, etc. etc. Et donc là, c'est l'éditeur français Ubisoft qui a développé ce jeu. Et donc qui utilise, enfin c'est un jeu de tir, on va dire, en vue à la première personne avec des énigmes, qui utilise une technique qui s'appelle le cel shading, en fait qui donne au graphisme cet aspect de dessin animé, donc on a vraiment l'impression de jouer dans la BD. Il faut dire qu'en plus la mise en scène utilise un découpage sous forme de cases, où on retrouve les onomatopées, vlam, boum, qui fusent de partout, enfin c'est très très animé, on a l'impression de faire partie en fait de la page.
C'est un peu une bande dessinée interactive.
C'est ça. Donc le plus, pardon, le scénario est vraiment en béton quand on connaît les BD. Il faut dire que le titre reprend en gros la trame scénaristique des 5-6 premiers albums, donc qui sont, d'après les aficionados, les meilleurs.
Ouais.
Alors, allez-y.
Non, je rappelle juste la trame qui est effectivement. Un homme qui est échoué sur une plage qui est totalement amnésique, qui ne se souvient absolument pas de ce qu'il a fait, et tout le monde va courir après lui, essayer de le tuer, etc. Et donc il va petit à petit s'apercevoir, est-ce qu'il est un agent du gouvernement, un terroriste, enfin il se pose de sacrées questions. Et c'est vrai que le scénario nous tient vraiment en haleine.
Donc, merci pour cette relance. En fait, les phases ultra speed d'action qui sont propres à ce type de jeu dans ce titre font place à des moments beaucoup plus calmes, propices au flashback où l'image devient complètement grisâtre, éthérée, etc. Et comparé à d'autres jeux où on trouve en fait une cutscene, enfin une scène qui est où on est simplement spectateur, là dans 13 on a la possibilité de contrôler le héros. Et en fait, on se balade dans cette espèce de labyrinthe de souvenirs à moitié abîmés. Et le flashback est aussi une partie du jeu où on essaye justement de remonter le fil de souvenirs et de refaire des connexions. Donc moi, je dirais que c'est vraiment une bombe, une bombe de jeux vidéo, un truc à conseiller évidemment aux fans de BD, aux fans de jeux vidéo et un titre à se procurer toutes affaires cessantes.
Ghislain qui est fan de bande dessinée et fan de la série 13, ça vous tente un jeu vidéo sur alors, sur ce scénario?
Je vais répondre sincèrement.
Non, pas du tout. Bah oui.
Bah non, moi, je suis vraiment pas branché jeux vidéo. C'est pas du tout mon trip.
Ça va venir, vous inquiétez pas, parce qu'on va régulièrement rentrer dans cet univers. Et vous allez voir, ça va venir.
Si vous goûtez à 13, à mon avis, Justin, vous pouvez plus lâcher la souris. Quoi.
Bah, j'avoue que la série 13 m'a passionné jusqu'à un certain, parce que comme dans beaucoup de séries, les premiers albums sont assez porteurs et puis bah, il arrive des fois où...
Ça s'essouffle.
Voilà, tout à fait. Et j'avoue, j'étais un petit peu déçu par certains albums et j'ai un petit peu lâché la série.
C'est pour ça que le jeu, en fait, se focalise sur les 6 premiers albums. Quoi. Mmh. Ouais.
Alors Cyril, on continue avec une autre adaptation d'une bande dessinée en jeu vidéo, je crois que c'est celle de Titeuf de Zep, qui, enfin bon, les albums sont parus aux éditions Glénat. Parlez-nous un peu de ce Titeuf méga compète.
Oui, donc bah, Eric, c'est un personnage maintenant qui est incontournable et donc qui passe cette fois-ci une deuxième fois donc de l'écran au papier, cette fois-ci c'est l'écran de nos PC après l'écran de la télé. Et donc le sale gamin gaffeur Blaise Cato est de retour dans ce méga compète qui est en fait une compilation de mini-jeux qui sont quand même avant tout destinés aux plus jeunes. Le problème de ce Titeuf méga compète, c'est que si il est très très fidèle à la BD, graphiquement c'est quand même beaucoup plus dépouillé que l'album de Zep. On retrouve, pour ceux qui connaissent le dessin animé, les voix du doublage dessin animé en fait qui sont présentes dans le jeu. Donc ça crée une espèce d'univers un peu cohérent pour ceux qui lisent la BD et qui sont en même temps fans. Mais c'est vraiment destiné aux plus jeunes. Et ce qui est dommage, c'est que l'intérêt des jeux en fait diminue avec l'âge du joueur, quoi. Et même chez les plus jeunes, avec qui j'ai fait le test, on joue une fois, deux fois maximum. Et en général, on n'y joue pas deux. On se lasse très très rapidement du titre. Donc ce qui est dommage, c'est qu'il est très jouable. On rentre très vite dans le jeu. La prise en main est très réussie, mais La durée de vie est très faible pour ce jeu. L'avantage, c'est qu'il est vendu moitié moins cher que les autres. Et bon, ça dit que je vais recommander aux plus jeunes ou aux inconditionnels du héros à la mèche rebelle, quoi.
Mais c'est peut-être pour ça qu'il est vendu moins cher, parce qu'effectivement, on le finit assez rapidement. Mais on peut peut-être avoir plaisir à y retourner, tout comme on reprend un album qu'on a déjà lu.
Ouais, disons qu'en fait, c'est la plupart des jeux ont un intérêt qui est ras du slip, comme dirait Titeuf. Donc, on s'en lasse. Ce qui peut être amusant, à la limite, c'est que quand on a des enfants, que l'enfant joue seul. Et après que l'adulte vienne peut-être l'aider pour ça. Il y a certains énigmes ou certains puzzles où l'enfant va avoir du mal. Donc ça peut être aussi une façon que parents et enfants se retrouvent autour du jeu. Quoi.
Pourquoi pas. Merci Cyril. Alors on se retrouve bientôt pour découvrir un peu plus de ces jeux vidéo. Parce que je tiens à ce qu'on explore différents univers et pas uniquement la bande dessinée, puisque tout est déclinable. Hein. La bande dessinée, on la retrouve en jeu vidéo, mais on la retrouve également sur grand écran avec toutes les adaptations. On la retrouve en dessin animé.
Ils sont pas toujours forcément réussis,
hein,
faut même dire.
Ça fera l'objet d'une émission. Effectivement, on en parlera. Mais il y en a qui sont assez sympathiques. Je pense, mais bon. Donc je vous rappelle que vous retrouverez l'intégralité de cette émission, les références des albums et des jeux présentés sur le site de l'association des Bulles dans la Marne. Alexandra, vous connaissez l'adresse par cœur maintenant, je pense.
Le vbdlm.free.fr.
C'est dur à dire, mais c'est facile à taper. Et si vous voulez nous écrire, nous envoyer vos dessins, vos questions, réagir sur l'émission, interpeller un chroniqueur, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez à...
Alors, au 2 bis rue du Parc, 77-185, Logne.
Et voilà, il est maintenant l'heure de nous quitter. Merci Alexandra, merci Ghislain, merci Cyril, merci Sébastien de nous avoir accompagnés ces dernières semaines. Sébastien, vous revenez quand vous voulez, hein, et bon courage pour vos cours avec vos élèves. C'était Eric Bonnier au micro. La semaine prochaine, on se retrouve en bulle, en stock et en stick.